Donc là aussi, des questions d'agenda nous ont amené à séquencer les interventions. C'est peut-être pas plus mal non plus, comme ça
Comme ça,
permet de lisser un
ça
peu, de
fait.
revenir sur le sujet. On a eu deux temps finalement hier entre la matinée qui était déjà dense sur le sujet et puis, même si ce n'était pas directement le sujet, hier soir, donc le docteur Krebs sur les éléments diagnostiques, mais on voyait bien aussi le lien ensuite avec les dispositifs de diagnostic et de prise en charge. Donc, on va vous passer directement la parole. On va vous laisser vous présenter directement, ce sera plus simple comme ça. Et puis, sans doute, enchaîner les deux interventions et on reviendra globalement sur les questions, ce sera plus fluide. Merci à vous.
Bien, je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir invité. Et effectivement, là, on va se plonger plus dans des prises en charge un peu innovantes que nous menons dans le cadre de l'hôpital Sainte-Anne. Et nos présentations sont complètement complémentaires, puisque je vais à un moment parler de la prise en charge des familles et comment ça s'intègre, et Dominique va rebondir après là-dessus. Donc, remédiation cognitive intégrée dans un parcours de réhabilitation, et c'est pour nous un tremplin pour l'empowerment. Alors, voici le diapo des conflits d'intérêts. Donc, les thérapies psychosociales, il faut savoir que c'est actuellement quelque chose qui est enfin, une dimension indispensable à la thérapie. Et c'est si, bien sûr, le traitement pharmacologique est la pierre angulaire, nous devons maintenant de proposer à nos patients un panel de thérapie psychosociale. Il y a une étude américaine qui recensait les souhaits des patients une fois la phase aiguë passée. Et la cible, c'était qu'est-ce qui peut faciliter l'engagement d'un usager et quel type de programme on pourrait lui proposer pour adhérer mieux à une prise en charge. Eh bien, les usagers, donc c'est une étude sur 354 personnes qui ont répondu d'abord ciblé, le terme, je l'ai laissé en anglais parce qu'en français, ça donne des phrases assez importantes, donc le terme ciblé l'empowerment, donc la capacité à pouvoir reprendre le contrôle de ses propres aptitudes, finalement. Ça pourrait se traduire comme ça en français. Et cibler la réalisation de soi, faire de l'exercice, favoriser la socialisation, impulser de la motivation et aider à planifier des actions et avoir un accès à des dispositifs pour s'insérer. Donc, on va voir là qu'on va être au cœur du sujet avec ce que nous menons quotidiennement dans le cadre de l'hôpital Sainte-Anne. Donc, finalement, actuellement, on dispose d'un panel de thérapie psychosociale. Donc, on a à notre disposition toute une série de clés qui peuvent améliorer la réhabilitation, enfin l'insertion du patient et la réhabilitation. Encore faut-il savoir par quoi commencer, encore faut-il pouvoir mener un parcours intégratif et se coordonner. Et donc, j'ai listé, lorsque le patient finalement est traité de manière optimale et stabilisée, la psychoéducation, les thérapies comportementales, les entretiens motivationnels, les habiletés sociales, le housing first, quand il y a une nécessité, la prise en charge familiale, la remédiation cognitive, je vais vous en parler un petit peu plus, donc je l'ai mise en bleu, le coaching et le soutien à l'emploi, et puis également un volet qui est très important pour nous, les activités physiques adaptées. Donc, comment articuler tout ça et comment s'organiser? Donc, depuis 2-3 ans, en fait, on a essayé de réfléchir dans notre structure, qui est le C3RP, donc Centre référent en remédiation cognitive et réhabilitation psychosociale sur l'Île-de-France, sur qu'est-ce qui étaient les éléments majeurs de notre prise en charge et qu'est-ce qui pouvait être innovant dans la manière dont nous appréhendons les prises en charge pour les patients. D'abord, on se focalise sur les difficultés cognitives.
Pourquoi les difficultés cognitives ? Parce qu'en fait, quand on regarde les différentes pathologies, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un trait transnosographique, que ce soit au niveau de la schizophrénie, que ce soit au niveau des pathologies autistiques, que ce soit au niveau de la bipolarité, que ce soit au niveau des troubles déficit de l'attention hyperactivité ou encore de ce que nous appréhendons dans notre équipe, qui sont les pathologies neurodéveloppementales avec maladies génétiques ou maladies métaboliques à expression psychiatrique, finalement, eh bien, on s'aperçoit que dans pas mal d'études, et maintenant il commence à y avoir 3 à 4 études qui sont sorties, montrant que, par exemple, quand on compare les patients bipolaires, les patients ayant des problèmes de schizophrénie, ce qui est important, c'est l'importance des facteurs cognitifs. Également pour les pathologies autistiques, également le facteur cognitif est un problème fondamental. Ne parlons pas en plus des problèmes du neurodéveloppement, où là, les difficultés cognitives sont cumulées et existent depuis la toute petite enfance. Donc ça permet finalement, si on se centre sur les fonctions cognitives, eh bien, on s'aperçoit que ça peut être un lexique commun entre le psychiatre, l'infirmière, les parents, les patients, les spécialistes de la réhabilitation, les psychologues. Tout le monde peut s'entendre décliner finalement de manière différente. Et donc, ce qu'on propose, nous, c'est que le focus sur les fonctions cognitives puisse être une sorte de clé musicale pour une partition qui serait jouée en synchronie, finalement, et en harmonie, comme dans un orchestre. On se coordonne, nous, autour d'un projet de remédiation cognitive réhabilitation où les différents acteurs de la prise en charge se positionnent par rapport au patient, le patient étant au cœur de ce projet. Et ainsi, on fait envisager une trajectoire qui permet de passer du soin, puisque nous situons dans un hôpital, à l'empowerment, au dehors, vers les structures, qu'elles soient vie ordinaire et travail, reprise des études ou de structures d'ESAT ou d'établissements spécialisés, y compris d'aide à l'autonomie. Et finalement, ce qu'on a constaté, c'est que la France, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, est très riche de ce point de vue-là, parce que nous travaillons sur un ferment idéal qui est finalement la sectorisation. Et la manière dont toutes les structures ont été créées finalement depuis les années 50 peuvent être constituées un sol parfait, un terreau parfait pour que puissent se coordonner ces différents maillons d'une même chaîne. C'est un certain nombre d'idées qu'on a diffusé depuis un certain temps. Et ces idées, donc, actuellement sont en voie de publication pour un éditorial dans une revue américaine qui est Psychiatric Services. Et ce modèle, tel qu'il est, permet de développer des parcours individualisés de prise en charge pour les patients qui, ensuite, actuellement, sont en train d'être repris dans tous les services de psychiatrie publique sur l'État de New York, et d'autres pays commencent à s'y intéresser, comme l'Australie les Pays-Bas. Donc, comment nous fonctionnons ? Nous sommes une structure transpolaire qui intervient donc sur deux pôles, le pôle 15 et le pôle 16, donc pôle 15e et pôle 16e, avec deux structures adultes, une du docteur Launay qui est un hôpital de jour, plus particulièrement orienté vers la réhabilitation et les habiletés sociales, et la nôtre, plus particulièrement orientée vers l'évaluation et la recherche. Et en même temps, nous sommes en train, actuellement, dans notre pôle, de coordonner l'ensemble des secteurs du 15e arrondissement autour de cet axe phare. Également, existe une structure enfant avec un service de pédopsychiatrie qui adopte nos programmes quand c'est possible, ou les adapte, ou en choisit d'autres actuellement, puisque certains sont en voie de validation, et surtout prend exactement le même esprit de soins et d'empowerment chez les enfants, avec les instances et les structures infantiles qui gravitent autour. Et donc, et cette structure a un centre de ressources autisme, c'est le service de pédopsychiatrie dirigé actuellement par Catherine Doyen. Donc on a une interaction et une complémentarité en même temps. On interagit avec les différents services de Sainte-Anne et on accepte des patients venant de tous les services de Sainte-Anne, mais également les différentes structures médicales et médico-sociales de Paris et de proches banlieues. Et on s'articule avec chacune de ces structures. Donc finalement, on a un patient qui est au cœur d'un dispositif et on le reçoit. Et on peut lui proposer un certain nombre de services, mais qui dépendent du projet qui est en cours et de son état clinique, hein, avec une évaluation que l'on mène qui est complémentaire et qui est très appuyée, avec une évaluation médicale, une évaluation neuropsychologique et une évaluation fonctionnelle, menée par l'infirmière, qui fait le lien avec la vie quotidienne et qui voit où sont les dimensions qui pêchent. Et à partir de là, on va non seulement décider du choix du programme de remédiation cognitive ou de remédiation de la cognition sociale que l'on va adopter, mais également de savoir si c'est par ça qu'on commence ou bien si c'est par les autres thérapies intégratives que nous avons à notre disposition. Donc la psychoéducation, mais également s'il y a un problème de toxicomanie, les entretiens motivationnels ou la gestion du stress et les autres thérapies comportementales qui sont bien sûr à notre disposition dans le service du professeur Krebs et Gaillard, donc dont on fait partie. Également, on s'articule avec l'ensemble du dispositif qu'il y a sur nous, sur le 15e arrondissement. Donc le CATTP qui vient de fusionner en faisant un CATTP regroupant trois secteurs, l'hôpital de jour, le foyer thérapeutique médicalisé, qui donc avec des spécificités qui sont différentes et qui vont dépendre bien sûr de ce qu'on va pouvoir offrir, et j'en parlerai tout à l'heure. Également interviennent, et c'est très important, l'environnement et en particulier la famille. Avec une action, puisqu'on est dans la même équipe, complémentaire avec Dominique et son réseau ProFamille, dès qu'il y a nécessité de prise en charge et qu'on voit qu'il faut aider la famille, ou bien à l'inverse, elle vient en nous disant « j'ai des parents qui souhaiteraient qu'on voit leur enfant dans un parcours de remédiation » et à ce moment-là, on essaie de voir si le patient peut être éligible pour un programme de remédiation. Également, nous nous articulons complètement avec les structures partenaires. J'en ai listé un certain nombre, mais il y en a d'autres sur Paris. Les ESAT, les SAVS, les structures soins-études, les GEM et les hôpitaux de jour, avec des spécificités selon chaque structure et selon les actions possibles menées par chacune de ces structures. Donc, finalement, on offre à ces patients un certain nombre de services. Donc, on prend des patients qui ont, en général, des éléments psychotiques, qui ont des difficultés cognitives, mais on essaie surtout de vérifier la stabilité, et ça, c'est le job du médecin, qui va vérifier que le traitement non seulement est stable, mais est optimal. Et si le patient est trop sédaté, si le patient tremble ou est trop invalidé par des problèmes moteurs, à ce moment-là, on diffère. On dit au psychiatre, en donnant un certain nombre éventuellement d'idées, de propositions pour varier, pour modifier un peu le traitement, on lui dit qu'on reverra le patient lorsque le traitement sera un petit peu différent, pour permettre une écoute attentive. Également, on demande à l'équipe qui nous l'envoie, ou alors au patient lui-même, d'avoir un souhait, un début d'objectif de réinsertion. avec un début de ce qu'il veut faire pour se réaliser. Et on voit si ça peut coller avec ce qu'on peut lui offrir. Une fois qu'on a tout ça, eh bien, il est élu, on va dire, pour entrer dans un programme de remédiation éligible, avec toute cette évaluation que nous menons en évaluation de multiples expertises. Et au seuil de tout ça, on décide si on va démarrer un certain nombre de programmes. Et là, vous avez un certain nombre de programmes qui vous ont été listés. Des programmes de remédiation neurocognitive, IPT, RECOS, NIER qui se fait en groupe. Donc on a des programmes soit en individuel, soit en groupe, soit papier-crayon, soit ordinateur. Ça dépend complètement du profil du patient et on fait quelque chose à la carte et complètement individualisé sur le profil du patient. Et vous avez toutes les autres activités avec cet adressage qui pour nous est très important, puisque nous allons travailler en synergie entre les structures qui nous ont adressé les patients et nous pendant les 3-4 mois que va durer le programme. Donc, à partir de là, on a créé une sorte de modèle tremplin pour réinvestir les capacités du patient. C'est un modèle un peu compliqué, mais je vais vous l'expliquer. En fait, le patient arrive soit de structures sectorielles, que j'ai mises à droite, structures polaires, hébergement thérapeutique, CMP, CATTP, soit de structures du territoire, et là vous avez listé à gauche une partie des structures du territoire qui peuvent nous les envoyer, cette prise en charge multidisciplinaire, avec ce qu'on propose, c'est que la remédiation cognitive permettant une sorte de... On va faire chauffer un peu la machine, on va stimuler intellectuellement pendant 3-4 mois de manière intensive le patient. Donc on a cette fenêtre de 3-4 mois pour que, dès qu'il y a des progrès constatés, les autres structures puissent potentialiser ces progrès et mettre des activités qui pourraient faire en sorte qu'on se coordonne tous autour de ce parcours individualisé. Puisque c'est le souhait du patient et qu'on est tombé d'accord sur un projet, à ce moment-là, tout le monde travaille dans cette fenêtre-là de 3-4 mois ou 6 mois et dans les 6-8 mois qui vont venir, puisqu'on sait par les méta-analyses actuellement que la remédiation cognitive dure 6 à 8 mois, on travaille pendant cette fenêtre-là pour faire en sorte que le patient multiplie et optimise tous les progrès qu'on va lui faire faire. Pour les patients qui ont en plus des problèmes d'autonomie, à ce moment-là, on peut même travailler en coordination avec le secteur. Et nous, on a créé un groupe que je vous montrerai tout à l'heure, Transfert au quotidien, pour travailler toutes les différentes dimensions de l'autonomie en plus de la dimension de l'insertion, du projet d'insertion. Bien sûr, quelque chose de très important, c'est le dossier social. Et du coup, les assistants sociaux sont une dimension fondamentale dans ce modèle. Il faut, dès le départ, qu'on puisse dire aux assistants sociaux, voilà, le projet, il est celui-là, où en est le dossier. Et à ce moment-là, suivant cette fenêtre que je vous ai donnée, de 3-4 mois plus 6-8 mois, ensuite, on doit calculer le temps du retour du dossier MDPH et à peu près le temps qu'il faudra pour que le patient puisse être candidat, soit à un concours, soit à une ESAT, soit passer le bac, soit ce que vous voulez, par rapport à son projet. Donc, ça nous impose un timing qui, finalement, permet des évaluations en début, des évaluations en milieu de parcours, des allers-retours avec les structures qui nous adressent les patients. Et ensuite, eh bien, ce système fait un peu un système tourniquet pour faire sortir le patient du soin et permettre de l'amener vers l'empowerment. Bien sûr, nous mettons en place pendant les 6 à 8 mois un coaching mensuel du patient. On ne peut pas malheureusement le faire sur en dehors, nous, de Sainte-Anne, mais on peut se coordonner. On est en train de prévoir une coordination avec des gens qui sont plus spécialisés dans le coaching. Mais on met un coaching mensuel. Et quand l'échéance de réhabilitation arrive, puisqu'on s'est positionné là, comme ça, à ce moment-là, on remet un peu de soutien un peu plus intensif pour que le projet puisse aboutir. Et ensuite, le patient passe du côté des structures de réhabilitation à proprement parler. Donc, quelques exemples. Ça, c'est les méthodes de remédiation que nous utilisons, mais peut-être qu'elles vous ont été largement montrées hier, hein, que ce soit des remédiations en groupe ou des remédiations individuelles. Et nous assurons pour la plupart de ces méthodes des enseignements, que ce soit sur le DU de remédiation à Lyon ou à Sainte-Anne. Donc, on assure deux sessions par an. En plus, les patients ont des tâches à domicile, ce qui permet, et ça c'est le travail plus spécifique des infirmiers, d'adapter complètement le lien entre l'exercice cognitif et la tâche à domicile qui va être complètement personnalisée en fonction du souhait du patient ou en fonction d'une préparation d'un concours ou des études, etc. Et les patients doivent en plus nous produire des écrits sur la manière dont ils vivent ce parcours de remédiation et dont ça s'inscrit dans leur vie quotidienne. Donc ça, c'est les méthodes de cognition sociale. Peut-être que hier, Nicolas Franck vous en a parlé. Elles peuvent être aussi soit en individuel, soit en groupe, soit remédiation des émotions, soit des choses un peu plus larges sur des interactions sociales complexes. Également, nous mettons en place du transfert à la vie quotidienne et nous travaillons pour les patients beaucoup plus institutionnalisés qui n'ont pas encore de projet de réhabilitation au dehors avec de la réalité virtuelle où ils naviguent dans une ville imaginaire auparavant en ayant listé avec un binôme créé par une ergothérapeute et une psychologue ou une infirmière, listé toutes leurs difficultés en vie quotidienne. Et on leur fait revivre les difficultés de planification, de mémorisation, de concentration, d'orientation dans cette ville imaginaire pour après les inviter. On s'en sert comme méthode de pré-remédiation pour après les faire se diriger plus vers le dehors et vers des projets. Également, on a mis en place des tests écologiques de planification en situation réelle et dans une ville imaginaire. On leur fait faire des courses dans le quartier de Sainte-Anne et avec le test des errances multiples. Et on leur fait également travailler dans un zoo imaginaire et un zoo papier-crayon avec le zoo map test. Et on regarde si les deux choses sont équivalentes. Là, j'ai mis des résultats qu'on avait sur quelques patients en études préliminaires pilotes où on voit qu'ils sont très gênés avant la remédiation au niveau de la planification et avec beaucoup d'errements et beaucoup d'erreurs. Également, on a mis en place du transfert à la vie quotidienne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour tous les patients qui ont des difficultés d'autonomie. On construit à ce moment-là, pendant la remédiation, un parcours en faisant un chaînon de coordination jusqu'à l'éducatrice à domicile ou l'infirmière qui va au domicile des patients, en transférant les exercices neuropsychologiques et les exercices qui ont été faits à la maison pour le domicile du patient, ce qui fait que l'éducatrice, quand elle arrive pour faire les visites à domicile, elle a déjà un cahier des charges très précis sur ce sur quoi le patient a fait des progrès et ce qui reste à parcourir. Également, on est en train de se coordonner autour de ces dimensions avec le foyer thérapeutique médicalisé du pôle 15 et créer des grilles d'évaluation communes, puisque là, le foyer thérapeutique, c'est vraiment un laboratoire pour nous, puisqu'on peut contrôler la plupart des conditions environnementales. Et on est en train de créer un guide d'enrichissement d'une de nos méthodes de remédiation pour indiquer plein d'exercices de transfert à la vie quotidienne et comment ça se fait en coordination. Donc, on est actuellement en train véritablement de créer un parcours de soins intégratifs, tant avec l'hôpital de jour du 15e que le foyer thérapeutique du 15e, avec la remédiation cognitive, mais aussi l'adjonction d'entraînement aux habiletés sociales et des programmes qui permettent de se positionner plus sur ces dimensions-là. On a travaillé aussi en coordination avec des ESAT, et là vous avez un exemple autour de l'ESAT Jules et Marcel Lévy, où en fait on est parti avec des patients dont deux patients ici avaient des retards intellectuels légers, plus psychose. On est parti d'exercices neuropsychologiques, de catégorisation et d'attention soutenue pour aller vers le remplissage, le conditionnement alimentaire. Et là, par exemple, vous avez une liste de chocolats à mettre dans une boîte pour un patient qui n'arrivait pas, qui était beaucoup trop lent. Eh bien, on a repris exactement les mêmes codes avec des surligneurs depuis les exercices qu'on a faits dans le centre, jusque dans les attes et jusque sur les étagères de conditionnement alimentaire où étaient les chocolats. Également, on a fait ça pour le pliage des boîtes de chocolat. On a travaillé la rotation mentale, puis le pliage des boîtes. On a travaillé aussi pour quelqu'un qui voulait faire de la saisie informatique, des textes de compréhension verbale, jusque du travail de frappe et de la saisie, et des questions ciblées pour que ça puisse l'aider. Donc, comment on se fédère maintenant ? On a créé, donc, depuis un an, au sein de la CHT, un COPIL remédiation cognitive parcours de soins. Et on essaie de diffuser le modèle de soins et les méthodes et de partager avec les autres hôpitaux de jour et les autres structures qui font de la remédiation et de la réhabilitation sur Paris nos pratiques, de les mettre en commun pour créer une sorte de plateforme, un bouquet de soins que l'on, en réhabilitation psychosociale, que l'on adopterait tous et que finalement n'importe quel patient sur la place de Paris pourrait avoir quand il s'adresse à un service parisien de la CHT. Également, on est en train de monter un COPIL qui ferait un réseau hôpital-structure médico-sociale depuis une intervention qui a été faite autour de l'ensemble des ESAT sur Paris pour améliorer la lisibilité des parcours de soins et également apprendre à mieux interagir et à rendre le parcours totalement fluide avec des structures qui, pour nous, sont encore compliquées à comprendre dans leurs indications, les différences SAVS, SAMSA, etc., et les différentes indications autour de Paris. Donc, également, il nous reste à harmoniser nos articulations avec les MDPH sur Paris et autour de Paris, parce que nos patients, ils arrivent aussi de l'approche banlieue. Enfin, on se sert beaucoup de la remédiation cognitive que l'on appelle incarnée, où on a créé des exercices de remédiation cognitive moteurs, avec finalement quelque chose de l'ordre du sport, mais ce n'est pas tout à fait du sport, c'est de l'activité physique adaptée. On a comme partenaire le professeur Kern à Nanterre sur cette dimension, où pour les patients qui ont un retrait social très important, pour les patients autistes qui ne peuvent pas encore verbaliser, ne peuvent pas encore démarrer des programmes de remédiation, eh bien, ils libèrent leur corps et du coup, ça permet l'introduction de l'émotion et de diminuer le stress autour de l'activité physique. Donc, en conclusion, on a une myriade de possibilités de coordonner des thérapies de manière intégrative autour des fonctions cognitives. Toutes les trajectoires de réhabilitation peuvent être envisagées. Il faut intégrer absolument les partenaires sociaux et administratifs pour avoir un timing parfait. À terme, ça pourrait permettre une nouvelle configuration des hôpitaux de jour, CATTP et foyers thérapeutiques autour de ces axes directeurs de réhabilitation et peut-être même, qui sait, une nouvelle chronologie dans l'évolution de la psychose autour de l'empowerment et pour le rétablissement. Voici l'ensemble des équipes que je remercie pour le soutien que ça nous apporte au quotidien.
Je laisse maintenant la parole à Dominique qui va vous parler de ProFamily.
Le temps qu'elle s'installe, je glisse une petite question. Elle est peut-être pas centrale, en fait, je sais pas. Vous avez montré le recours, comme c'est de plus en plus le cas en réhabilitation, à des outils de simulation, etc. Est-ce que vous disposez, ou est-ce que vous estimez avoir besoin d'outils de planification ? Parce que les ressources sont croisées, multiples, complexes. Les parcours, c'est des trajectoires dynamiques. Est-ce que vous avez des outils en la matière ou est-ce que des outils seraient nécessaires ? Parce qu'on a des réflexions de notre côté sur les systèmes d'information, sur...
De planification, ouais, de quoi ? De la fonction cognitive ?
Des ressources, des interventions, etc.
En fait, nous utilisons un programme de réalité virtuelle centré sur la planification.
et en fait qui reprend tous les modèles de planification neuropsychologique qui a été créé par Pascal Piolino et son équipe, qui travaille sur la mémoire prospective et rétrospective, c'est-à-dire comment planifier, par exemple, d'aller faire des courses dans son quartier, en même temps aller chercher quelqu'un à la gare, etc. Donc on travaille là-dessus.
Alors, ma question portait, merci de cette précision d'ailleurs, ma question portait sur la planification de l'ensemble des ressources c'est que met en jeu le parcours,
intervenants. C'est bien. Mais en fait, c'est vrai qu'on en est là et on aimerait bien pouvoir planifier l'ensemble des ressources que comporte le parcours, c'est vrai, tout à fait.